la première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
André.
Soupart. S-O-U-P-A-R-T.
Les 60 ans de l'IEX, à l'espace d'architecture, la faculté d'architecture, la Cambre-Horta, jusqu'au 22 avril. À la Fonderie, musée bruxellois de l'industrie et du travail, exposition carte blanche tentation, jusqu'au 7 avril.
On m'a demandé d'être le commissaire de cette exposition de l'IEX, en fait, qui fête ses 60 ans.
Avec à l'IEX, Institut des hautes études des communications sociales, André Soupart, Roger Jopp, Colin Delfas, Alice De Wert, Christine Mahouet.
L'IEX a été fondé en 1958.
Et à la Fonderie, musée bruxellois de l'industrie et du travail, carte blanche, tentation, avec Pascal Magérus, Christine Mahouet et la voix de Guido van der Hulst. Deux voyages bruxellois par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Comme l'IEX est une école de communication sociale appliquée, beaucoup de ses anciens ont continué à faire de la photographie. C'est ça l'idée des profs de photo actuels, c'est de faire une exposition de 60 photographes pour les 60 ans de l'anniversaire en question.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Achenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechanski.
Authentique, me tento, tentum, stélé.
Le monde invisible.
Plus qu'animal, animal vénéré, animal fétiche, animal avec lequel on a une relation très particulière et qui est la passion. Mais évidemment, comme cet animal est lié à un territoire, ça fait un triangle avec une géométrie très intéressante. Mais si évidemment on touche à un de ces éléments, le triangle s'écroule.
Moi, je suis un ancien de l'IAD. J'ai fait des études de cinéaste, mais je fais de la photographie aussi et de la vidéo, mais en tant qu'artiste, on va dire ça comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai été prof en première année, à l'IEX, j'ai hérité d'un cours de photographie, donc les principes de la photographie, ce qui fait que tous les gens qui sont passés à l'IEX m'ont eu en première année, dans un cours dont ils se souviennent, parce que c'était un cours de photo où je projetais des images, etc. Enfin, il y avait une certaine ambiance, on va dire ça comme ça.
Donc il y a les débardeurs ardennais qui travaillent avec leur cheval de trait adoré dans la forêt d'Ardennes, et qui participent à la conservation des sols, etc., par rapport à la machine.
Roger Jopp.
Ensuite, il y a les Turkana du Kenya, qui sont un peuple de pasteurs nomades qui vivent avec des chèvres et leurs dromadaires laitiers, qui sont aussi liés à un territoire, parce que c'est un territoire dont personne ne veut, mais qui, évidemment, leur a permis de garder leur manière de vivre. Et là, le dernier, qui va être un livre qui va sortir le 1er mai, que j'ai fait avec une autre photographe qui s'appelle Gaël Henkens, sur les vieux éleveurs de taureaux en Camargue. Ça n'a rien, évidemment rien à voir avec l'Espagne, où le taureau est le maître du territoire. Et les trois éléments sont aussi menacés par la modernité et par le réchauffement climatique.
Je ne suis plus à l'IEX depuis 10 ans. Donc il y a des plus jeunes que je ne connais pas, que j'ai découvert à l'occasion de cette expo.
Le réchauffement climatique bouleverse les choses. Donc la Camargue, c'est à peine 80 cm au-dessus du niveau de la mer. La mer avance de 4 mètres par an. Donc elle apporte du sel et elle menace le territoire. Au Kenya, le réchauffement climatique a entraîné des bouleversements auxquels des populations qui vivent d'une certaine manière depuis des millénaires n'ont pas réussi à s'adapter, parce que pour la première fois de leur existence, ces changements, ces bouleversements sont trop rapides. Et aussi dans les Ardennes, le changement, il est surtout dû à la modernité et l'apport de technologies redoutables, de rapidité, mais qui ne préserve pas les sols et les biotopes de manière correcte.
Voilà. Tiens, pourquoi 1958, l'idée de fonder une école ?
Ah, ben justement, c'était ça le côté qu'on dit toujours un peu visionnaire à l'époque, c'est qu'on se rendait compte de l'importance qu'allait prendre la communication. Et donc l'IEX a été la première école en Belgique à insister sur l'usage des médias et à apprendre les médias. Après, il y a eu l'IAD. L'IAD était fondée en 59. Et l'INSAS est encore arrivée, je crois, 2 ans plus tard.
Oui, ça c'est lié à la tendance nouvelle de l'écologie, etc. Mais en même temps, dans ce qui concerne mon travail, c'est-à-dire le cheval de trait, il y a peu de gamins. Déjà, ils peuvent pas aller à la banque pour demander de l'argent pour acheter 3 chevaux de trait. Par contre, s'ils voient la banque demander de l'argent pour acheter un tracteur qui va coûter 250 000 euros, il n'y a pas de problème.
On en voit plusieurs ici, dans ces photographes, qui sont des photojournalistes vraiment de conflit. Je pense à Wilson Fash, par exemple. Ben, Pauline Beuny, qui était allée faire des études d'arabe à l'université du Caire en 2011, au moment où il y a eu la révolution, la place Tahrir. Ben, elle était dedans, ses amis étudiants manifestaient. Après, elle y est retournée pour faire le film qu'on va projeter aussi ici. Donc, c'est vraiment des gens qui étaient au cœur de l'action. C'est des gens de terrain, on va dire ça comme ça.
C'est le grand mur, exactement.
Mais on peut appeler ça une installation, on peut appeler ça comme ça.
Oui, qui a été exposé à Charleroi, effectivement, mais comme Roger Job également, hein, qui a eu une exposition sur son travail sur les Turkana, par exemple. Beaucoup d'autres, hein, je ne peux pas les citer tous ici, mais en reportage, Colin Delfos aussi, par exemple, qui va souvent en République démocratique du Congo, qui fait un travail aussi extraordinaire.
On est parti du travail qu'on a fait ensemble il y a une dizaine d'années, en 2007, au Congo, au Katanga. C'est un travail commun qu'on a fait avec Pauline. Le grand paysage qu'on voit là, une série sur l'héritage de Mobutu en République démocratique du Congo.
Colin Delfos, il a une forme de légèreté. Ses photographies des catcheurs à Kinshasa, pour moi, c'est des séries époustouflantes.
On va dire que c'est presque par hasard, hein, que je suis arrivé là-bas. Et force de retourner, on se prend forcément d'affection et d'amour pour ce pays qui est à la fois magnifique et à la fois foutu. Tout est grand, tout est gigantesque, tout est hors norme. Les paysages, les gens, enfin, c'est indescriptible, on ne peut pas décrire ça en une minute, mais c'est un pays qui est juste fascinant, en fait, par son histoire, par sa politique, par ses sous-sols, enfin, voilà, quel que soit le regard qu'on puisse porter sur le Congo, voilà, c'est un pays fascinant, quoi. Et voilà, moi, j'ai été sans doute pris par ça, et après un premier voyage, et donc j'ai eu le cesse de retourner pendant toutes ces années, parce que, évidemment, au bout d'un certain temps, on crée des contacts aussi, des liens. On a envie de creuser des histoires qu'on prolonge, qui n'aboutissent pas, d'autres qui aboutissent. C'est ça qui est chouette, évidemment, c'est de raconter le pays sous ses différentes formes. Ici, c'est très parcellaire, mais ça montre aussi cette diversité qu'offre le pays, quoi. Ça, c'est ma vision, en quelque sorte, une vision parmi tas d'autres.
Il a fait des portraits des femmes combattantes kurdes, par exemple. Moi, je suis admiratif de la manière dont ces photographes arrivent à aller dans ces lieux et... Il faut tenir le coup, il faut subsister, il faut s'introduire. C'est déjà ça qui est remarquable.
Les pays en conflit, c'est sûr, en tout cas pour ce qui s'agit de la Palestine, la Syrie, mais de manière générale dans le Moyen-Orient, il y a pas mal de conflits, que ce soit pas toujours des conflits armés, mais des conflits sociaux aussi, beaucoup, religieux. Et c'est sûr que le conflit m'intéresse. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi la culture dont je me sens relativement proche. Enfin, je suis allée en Afrique, par exemple, je n'ai pas les mêmes liens. Et c'est vrai que donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup informée. Et tout ça a nourri aussi l'envie que j'ai d'aller dans ces pays-là.
Marie de Wert, elle est sortie récemment et moi, je ne la connais pas, je ne l'ai pas eue dans mes élèves.
Je prends des cours d'arabe, oui. Mais sur mes derniers voyages, je ne parlais pas encore. J'ai commencé cette année au Centre arabe européen à Madou. Et donc, c'est aussi dans l'idée que je sais que je veux me spécialiser là-dedans. Je trouve que voilà, pour avoir du crédit, pour justement pouvoir plus facilement dialoguer avec les gens que j'interviewe, ben, j'ai décidé d'apprendre l'arabe. Oui.
Et que photographiez-vous ?
Je photographie vraiment, je pense, le quotidien, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas une photographe, par exemple, spécialement de l'intime. Je n'ai pas envie de me mettre forcément dans une maison avec des gens, mais j'aime l'extérieur, j'aime le quotidien, les choses qui sont simples. J'adore la nuit, donc je trouve qu'une ville, la nuit, particulièrement au Moyen-Orient, les villes sont souvent très vivantes la nuit. J'aime bien ça. Et oui, je pense que je photographie le quotidien et de manière souvent assez positive. En tout cas, je sais que c'est ce qui ressort. Les gens me parlent souvent de ça. Après, on a aussi des images très négatives de ces pays-là. Donc forcément, dès que ça devient un peu plus positif, on a l'impression que ça crée un contraste très flagrant. Mais c'est vrai que quand je regarde mes images, je pense que c'est ce qui m'attire de manière instinctive, quoi.
Et la Syrie ?
Oui. Mais la Syrie, j'ai eu la chance d'y aller parce qu'en fait, j'avais un contact ici qui m'a permis d'aller là-bas. Donc, je suis restée dans les territoires contrôlés. Donc, au niveau de la sécurité et tout, ça allait. J'aurais voulu rester plus de 2 semaines, mais j'ai eu un visa pour 2 semaines. Et j'étais vraiment contente d'y aller parce que moi, c'est un conflit qui m'a fort marquée parce que ça a commencé à une période où mon intérêt pour le Moyen-Orient a vraiment commencé. Et forcément, c'est un conflit qui a marqué toutes ces dernières années. Et quand j'ai vu que la situation se calmer un peu, j'avais vraiment, vraiment envie d'y aller. Et donc, j'ai eu la chance d'y aller en été 2018. Et c'est vrai que c'était surprenant parce que moi, je suis allée dans un pays où finalement, je me sentais relativement bien. Maintenant, je suis restée dans des territoires qui vraiment étaient contrôlés par le régime et où les gens commençaient en fait à revivre. Donc, il y avait cette espèce d'élan de « j'ai envie ». Enfin, ils avaient tous envie que tout aille mieux, donc ils faisaient tous comme si tout allait bien. Et c'est vrai que c'était assez perturbant parce que là, il faut aussi rester objectif et pas se laisser avoir par cette impression et se dire, bah oui, au final, tout va bien, alors que c'est un pays qui est en guerre, c'est un pays qui est dévasté. Mais malgré tout, ça restait une expérience intéressante. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de la montrer ici, en partie.
Le principe de l'IEX, c'était que pour communiquer efficacement, il fallait avoir pratiqué soi-même les médias.
Mon prochain voyage, je pense que ce sera en Irak, parce que là, j'ai commencé un projet qui consiste en fait à rassembler des histoires ou des témoignages de réfugiés depuis 2003 jusqu'à 2018, donc ce qu'on dit être la fin du califat de Daesh, donc de l'invasion américaine jusqu'à la fin. Et j'ai envie de rencontrer des réfugiés qui ont fui à différents moments et dans différents endroits et de faire à la fois leur portrait, mais aussi le portrait du pays qu'ils ont quitté, parce que l'Irak est un pays que j'aime beaucoup. Et pour ça, j'aimerais aussi évidemment me rendre sur place.
Ah, elle s'est transformée dans la mesure où il y a eu de plus en plus d'étudiants, vu son succès. Et du coup, effectivement, on a dû réduire les temps de pratique. C'est clair que on ne fait pas la même chose avec une équipe de 2, puis de 4, puis de 6, et puis un groupe entier ou une classe entière, ça c'est évident. Maintenant, j'avoue que l'école a un dynamisme extraordinaire, mais je vois aussi les difficultés des studios et des labos de pratiquer ça avec un tel nombre, ça c'est clair. Mais l'école a un succès bien mérité, parce que c'est une formule gagnante, on va dire ça comme ça.
Pascal Magérus, donc je suis conservateur de la fonderie.
Tout est parti d'un catalogue donc d'archives familiales. Donc là, c'est une gravure de l'usine de mon grand-père. Je n'ai pas connu cette époque-là, donc je situe ça dans les années 50-60, comme ça. Je n'ai pas de date précise non plus. Donc c'était une usine d'outils de jardinage et de maçonnerie. Et voilà, là j'ai le catalogue d'époque qui présente chacun des outils avec des lames spécifiques, par exemple pour les couperets en fonction de la terre, de Namur, Liège ou Charleroi. Enfin bref, c'est assez étonnant de voir que voilà, il y avait une précision comme ça.
André Soupart. Moi, je suis d'une époque, effectivement, sortant de l'IAD, moi, en 64. C'est le début du cinéma belge. Je veux dire, j'ai travaillé avec André Cavens, par exemple. Alors, j'ai travaillé pas mal aussi sur des films, des longs-métrages. Je venais de la prise de vue, donc de l'image, mais j'ai aussi été assistant. Et puis, moi-même, j'ai réalisé des films. Notamment, par exemple, pour la RTB, qui m'a demandé de réaliser une des évasions célèbres à l'époque. C'était une série internationale, feuilleton. Des expériences à l'époque. J'ai fait des documentaires, j'ai fait des films d'entreprise, etc.
Deux voyages bruxellois, Partir et Jeunico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et c'est exposé ici. certains outils encore emballés. Et comme ma formation en design textile m'amène à travailler des motifs, j'ai utilisé ces outils pour créer alors des motifs à partir des outils de jardinage. Et puis ça me paraissait important de travailler la terre avec ces outils, donc j'ai entamé une longue formation en céramique. Ça fait plus de 7 ans maintenant que je fais de la céramique et je travaille tous ces outils en porcelaine.
Christine Maouet.
Et c'est ce qui est exposé pour le moment à la Fonderie, qui est donc le musée des industries et du travail. Et pour moi, c'était formidable de pouvoir exposer là-bas, dans tout ce passé industriel.
La Fonderie, c'est beaucoup de choses. La Fonderie, donc à l'origine, la Fonderie est née d'un collectif d'habitants. On est à la fin des années 70. Molenbeek, comme toute la région bruxelloise, est en pleine crise de désindustrialisation. Et vous avez des habitants qui se mettent ensemble pour tenter de sauvegarder leur passé dans une perspective de recréer de l'emploi, de redynamiser les lieux.
Quel avenir voyez-vous, Guido van der Hulst, à ce site?
Une première chose, c'est qu'il faudrait éviter que la fonction de monofonctionnel de type Musicity ne se passe. Mais je ne voudrais pas faire une bataille d'arrière-garde ou faire croire que nous avons eu l'occasion, avec un bon nombre d'associations, tant culturelles que d'insertion, travaillant dans les quartiers populaires environnants, parce que ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que ce site n'a pas été autocentré. Il a généré des filières de production. Les usines de tabac, d'alcool, de vin sont dans les quartiers environnants. Mais l'État, la collectivité, a réfléchi aussi à l'implantation des résidentiels. Donc vous avez des cités de logements sociaux, à deux pas d'ici, mais vous avez aussi des appartements super haut de gamme. Donc à moins de 300 mètres à vol d'oiseau du site, vous avez une mixité de résidences et d'activités tout à fait intéressantes. Donc on devrait bien s'inspirer. Ça veut dire que ce n'est pas simplement sur le site. Notre réflexion, c'est qu'il faut absolument réfléchir de nouveau le site dans son articulation à la ville, en termes d'emploi, en termes de filières. Donc nous avons proposé la Cité des Arts et de la Communication, qui est une continuation d'activité, qui tire parti des potentialités du site, charge au sol, liaison chemin de fer, luminosité des toitures, enfin toutes les potentialités qu'il y a dans ce site peuvent être exploitées, par exemple pour l'exploitation des collections de journaux. Oui, et travailler avec des entreprises qui, elles-mêmes, pourraient gérer le multimédia autour de ça. Donc, il y a moyen de trouver des partenaires, et nous en avons contacté qui ont marqué un intérêt réel pour différentes de nos hypothèses.
Alors, c'est tout le travail de quelqu'un comme Guido van der Hulst, qui a été la cheville ouvrière de ce collectif du vieux Molenbeek, en fondant notamment l'ASBL La Rue, qui est un petit peu plus loin, au début des années 80, qui est une maison de quartier. Et de cette maison quartier va naître un collectif d'historiens qui deviendra la Fonderie, où nous avons depuis 35 ans maintenant, puisque la Fonderie est née en 83, l'objectif de travailler l'histoire dans une perspective d'action. Donc on a des expositions, mais qui nous montrent toujours le lien avec le présent et l'implication du passé pour bien comprendre notre présent. Et la Fonderie fait beaucoup de choses et notamment abrite le musée bruxellois des industries et du travail dans lequel vous vous trouvez. Et moi, je suis historien, oui.
Christine Maouet, effectivement, j'ai eu à l'époque comme étudiante aussi, elle, son travail qui est exposé ici par d'outils.
Et quelque part, je donne une seconde vie à tous ces outils. Donc là, j'ai aussi interprété des pièces qui font partie de la collection de la Fonderie.
La Compagnie des Bronzes est venue s'installer ici à Molenbeek à partir de 1865. Et ils vont fermer. En 1977, ils vont faire faillite en 77, donc 79, deux ans plus tard, tout est fermé, liquidé. C'est Guido van der Hulst qui va forcer la porte, ils vont se retrouver ici, ils vont trouver le lieu assez incroyable, et ce collectif d'habitants va décider de le sauver. Ça va prendre un petit peu de temps avant que la communauté française de Belgique achète le site. Et aujourd'hui, nous sommes un musée de la communauté française.
Pascal Magérus.
Alors, on a une énorme collection. Donc, notre collection s'est surtout constituée par des sauvetages.
Donc, il y a le centre de l'écrit autour des journaux. Il y a tout ce qui est le soutien à la création artistique, dans lequel l'entreprise peut intervenir autant que les autorités publiques, d'ailleurs. Il y a, par exemple, un exemple, c'est les collections, les productions de décors que les théâtres, les studios d'enregistrement ont besoin. On cherche dans tous les coins. Nous disons, faisons une espèce de coopérative de tous ceux qui ont besoin de ce genre de choses, organisons sur ce site un lieu de production de décors et en même temps de gestion de décors pour la collectivité. Et ensemble, on fonctionne. Et ça doit être autofinancé, évidemment, très rapidement, à partir d'un investissement de base. Il y a des partenaires immobiliers qui disent « ça m'intéresse ». Donc pourquoi on ne peut pas pousser plus loin? Parce que c'est vrai que c'est un morceau d'un ensemble, d'une grande réflexion. Ça demande une table ronde, ça demande une autorité politique qui a assez de projets à long terme, si vous voulez, que pour dire « je provoque cette table ronde et je développe un projet global sur l'ensemble du site, dans son articulation au quartier environnant ». Ça serait important.
Guido van der Lust entendait qu'une usine allait fermer. Dans les années 80, il y a quantité d'usines qui ferment, donc il allait sur place. Il prenait tout. Et en se disant, on aura le temps de faire le tri après. Ce qui fait que 30 ans plus tard, le tri, on est encore en train de l'opérer maintenant. Donc nos collections ne sont pas ici, elles se trouvent à Anderlecht. Nous avons un énorme dépôt de 4 500 m² avec des machines très impressionnantes ou bien des petits outils. Enfin, il y a toutes les tailles, mais en règle générale, on a besoin d'espace. Et nos dépôts sont pleins, archi-pleins. Et ce que vous voyez ici dans le musée, c'est une infime partie de nos collections. On a vraiment beaucoup, beaucoup plus, comme la plupart des musées d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'un musée, c'est avant tout de conserver des pièces du passé pour le futur. Donc c'est l'exposition, bien sûr, mais c'est la conservation qui prime sur l'exposition.
La gare. Cette gare fait 2,5 km sous toiture. Il n'y a pas deux gares aussi grandes que ça en Europe. Et on voudrait y mettre des magasins d'usines. Mais c'est vraiment sous-exploiter la gare. Première chose d'une gare, c'est refaire une gare. On a moins, beaucoup moins de problèmes de parking de voitures. On fait des navettes qui font qu'on arrive au cœur de la ville en moins de 10 minutes. C'est génial comme proposition. Donc on peut circuler, les voies sont là, ça fonctionne. On tire parti de ce qui existe. Deuxième chose, nous sommes à moins de 500 mètres du chemin de fer, du premier chemin de fer du continent. On pourrait en faire un lieu d'interprétation de l'importance du chemin de fer dans l'évolution des sociétés, des civilisations, des techniques, des mentalités, etc. Pourquoi pas ?
À vous écouter, je me demande si un événement déclencheur n'a pas précipité les choses, à savoir la destruction de la maison du peuple de Victor Horta.
Oui, 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 tout à fait. Ça a été le début, donc je crois que c'est 65, c'est le début d'une conscientisation autour du patrimoine de Bruxelles. C'est vrai qu'on a beaucoup détruit à Bruxelles. Hein. On continue à détruire, mais bon, maintenant c'est quand même beaucoup mieux cadré. Et ce patrimoine, on a tenté de le sauver. Alors, un accent particulier doit être mis sur le patrimoine industriel, puisqu'il ne faut pas oublier que la première ville industrielle de Belgique, c'était Bruxelles. Et on a beaucoup détruit le patrimoine industriel, parce qu'on dit, de toute façon, c'est moche, ça ne sert à rien, c'est purement pratique, on peut détruire, on peut faire l'économie de ça. Et on a énormément détruit de patrimoine industriel, bien sûr, on le regrette aujourd'hui, mais on a sauvé des lieux incroyables, puisque Tour et Taxi, pensons au sauvetage de Tour et Taxi, on pensait le démolir et dans les années 90 et ça a été sauvé in extremis. Donc aujourd'hui, qui dirait que Tour et Taxi est un lieu affreux, moche et inutile?
Donc l'idée a été portée par un groupe de fadas autour de l'histoire du chemin de fer. Pas de collectionneurs de machines, c'est un autre problème, mais eux pourraient parfaitement être associés à la réflexion. Ça pose aucun problème, on met en valeur leur collection. Mais ce n'est pas les collections qui sont l'élément essentiel, c'est le propos sûr. Troisième élément, c'est organiser des événements ici dedans. Des immenses volumes comme ça, vous faites avec ça à peu près ce que vous voulez en termes de manifestations, de foires, d'expositions monumentales, d'expositions contemporaines, enfin des tas d'événements qu'on peut organiser ici dessus.
Vous êtes dans une petite salle du musée qui est la salle des électriciens. C'est une salle qu'on a un peu désolidarisée des autres salles d'exposition pour en faire une salle carte blanche. C'est-à-dire qu'on invite des artistes, des associations extérieures ou d'autres personnes intéressées pour venir exposer pendant quelques semaines leur travail qui doit tourner autour de la notion donc de travail ou de la notion d'industrie. Et ici, nous avons invité donc Christine Maoué et Rowan Grafly qui sont partis de nos collections, c'est-à-dire ils sont partis d'outils de la Compagnie des Bronzes, qui sont exposés ici, ainsi que de papier peint, puisqu'on conserve également du papier peint, et ils les ont déclinés en porcelaine, en de multiples exemples, qui rendent en fait des outils utiles très durs, des outils tout à fait inutilisables en porcelaine.
Et quelque part, je donne une seconde vie à tous ces outils. Donc là, j'ai aussi interprété des pièces qui font partie de la collection de la fonderie.
Mais quant à Christine Maoué, elle travaille sur la mémoire de son nom.
Oui, tout à fait.
Je suis sortie de l'IEX en 93 et donc c'était en éducation permanente. J'ai poursuivi aussi dans cette voie, donc à côté de mon travail artistique, effectivement j'anime des ateliers, j'enseigne en fait le design textile dans un centre d'expression et de créativité.
Il y a ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire. Donc pour le moment ce qu'on fait c'est que nous sommes encore liés au traitement du passif. Ce passif de ces 30 dernières années, on continue à le trier. On n'a pas pris le temps de le trier auparavant. Notre travail maintenant, c'est de trier ce passif. Il y a beaucoup de choses qui malheureusement se sont détériorées, donc le tri en est facilité. Mais c'est un travail immense. Alors ce que l'on accepte pour le moment, donc des gens viennent vers nous pour nous proposer des dons. On n'est plus dans les grandes entreprises des années 90, ou 80, ici on est plutôt dans des petits ateliers, des ateliers de menuiserie ou d'autres. Par exemple, il y a quelques années, on a rentré un atelier, l'atelier Trion, qui fabriquait des lampes de fiacre. On a démonté tout l'atelier, on a bien documenté, donc tout ça est bien conservé chez nous et on pourrait le reconstruire à l'identique.
Et j'aime beaucoup cette mixité de public avec lesquels je travaille, donc des groupes assez mixtes, notamment avec une association qui a un atelier de couture, qui est une association avec des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc qui sont en alphabétisation. Et voilà, c'est assez riche et j'amène en tout cas ce public à travailler sur la filiation, donc un peu comme moi je le fais à travers ce travail dont je parle ici. Je les invite à aller puiser dans leur passé familial et on voyage beaucoup à travers tout ça parce que voilà, les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Ça permet une forme d'ancrage aussi et puis ça permet d'aller à la rencontre de l'autre et tout ça se fait à travers les motifs notamment.
Donc, Deleuze va nous mettre en dépôt, donc elle ne va pas nous faire don ici, elle va nous mettre en dépôt toute une série de pièces qui vont rappeler le passé de Deleuze à Molenbeek. Alors ça c'est ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire maintenant, et ça c'est aussi dans nos projets, c'est pouvoir documenter le travail aujourd'hui pour demain. Et c'est beaucoup plus compliqué, parce que comment documenter notre travail qui, pour la plupart de gens, se fait par l'ordinateur, se fait par le smartphone ou d'autres choses. Comment documenter ça? Il y a 100 ans, c'était beaucoup plus simple. On collecte les outils, on collecte, on collecte éventuellement, pour les périodes plus récentes, la mémoire du travail. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus uniforme. C'est un problème, et c'est pas uniquement le problème de la fonderie, un problème que nous voulons résoudre seuls, mais c'est le problème que rencontrent beaucoup de musées de société, beaucoup de musées du travail, avec qui nous sommes en lien et avec qui nous réfléchissons sur ces questions.
Mais Christine Maoué, vous me parlez de design textile,
oui.
Vous me parlez de céramique, mais vous ne parlez pas d'une école de communication.
Oui, c'est vrai, tiens.
Donc nous collectons la mémoire orale, la mémoire du travail, donc que ce soit dans nos expositions, que ce soit en contactant des travailleurs ou des intervenants divers, on continue à enregistrer leur mémoire, la plupart du temps en audio.
Et quel souvenir gardez-vous de l'enseignement de cette école de communication qui s'appelle l'IEX ?
Beaucoup de beaux souvenirs, notamment au niveau des rencontres humaines, donc des amitiés de longue date qui sont toujours bien présentes aujourd'hui. Évidemment, le cours d'André Soupart, alors il est commissaire de cette exposition, mais c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui ont suivi son cours en auditoire, notamment, étaient vraiment subjuguées. Enfin, c'était juste magnifique. Son cours avait lieu très très tôt, mais l'auditoire était toujours plein. Et c'était un vrai bonheur de l'entendre parler de tous les photographes. C'était un cours d'histoire de la photo, et donc il passait en revue les photographes les plus divers et variés, mais je dois dire qu'il en parlait avec passion, et c'était vraiment magnifique.
Donc on a un bateau aussi, hein, donc on fait des parcours guidés en bateau et à pied.
D'autres souvenirs à l'IEX, c'est tous les cours pratiques étaient assez intéressants aussi, donc le labo photo, et à l'époque, je pense que ça a changé aujourd'hui. On pouvait utiliser le labo même la nuit pour faire ses travaux, donc on avait une concierge complètement haute en couleur qui nous ouvrait les portes de l'IEX à n'importe quelle heure de la nuit, et voilà, on allait tirer nos photos. Enfin, c'était assez magnifique, et on avait aussi les labos son. Enfin, je me souviens parfaitement en mémoire dans ce média.
Bruxelles s'articule autour de deux canaux. Il n'y a pas un canal à Bruxelles, il y en a deux. Et notre bateau qui s'appelle la Gueuse permet de voir la ville depuis l'eau. Donc c'est assez déroutant comme vue de la ville. On n'a pas l'habitude d'imaginer que Bruxelles soit également une ville où l'eau a une telle importance. Bruxelles est un port de mer.
Les cours de philo aussi me plaisaient beaucoup.
Comment remonter les machines, comment démonter les machines, remonter les machines. Là, nous avons la chance, ici à la fonderie, de compter parmi nos employés un ingénieur qui supervise le démontage, le remontage de machines. Parce que l'objectif, surtout maintenant, est quand même de les remonter et de pouvoir les faire fonctionner si nécessaire.
Oui, je pense que c'était une bonne formation, à la fois théorique et pratique, et qui m'a quand même bien servi pour la suite, quand j'ai travaillé au Théâtre Varia, il y a bien longtemps aussi.
On pourrait être un repair café de machines anciennes, ça serait extraordinaire. On a souvent des gens qui ont des compétences incroyables, hein, qui s'y connaissent dans le maniement d'outils ou dans le fonctionnement de machines, dont on n'a même pas le nom, et qui arrivent à comprendre comment fonctionne la machine.
Oui, c'était une formation assez complète, et par rapport à l'artistique finalement, qui m'a permis aussi de rebondir et d'allier les deux. Après, j'ai fait la Cambre, après avoir fait l'IEX, mais... Voilà, ça me permet d'animer des ateliers où le social et l'artistique se rejoignent.
Marie Dion, qui est en Turquie et qui a photographié les manifestations contre le régime actuel, ce sont des gens qui sont chaque fois au cœur de l'action. Il y a d'autres tendances, bien sûr.
J'ai choisi des objets de leur collection. Ce sont des cuillères à lisser d'acier. Je trouvais qu'elles avaient des formes intéressantes, notamment celle-ci qui est vraiment biface. Et puis, Pascal Magéris m'avait aussi donné des petits pois, ça n'était même pas dans leur collection, parce qu'ils reçoivent énormément de dons, d'objets de toutes sortes. Et alors le papier peint aussi.
André Soupart.
Ce n'est pas une école où on fait, disons, de la réflexion sur la communication ni de la recherche. C'est une école où on apprend à communiquer le plus efficacement. Donc, savoir faire une mise en page, mettre une photo, une légende, savoir diriger un micro, savoir à quel moment, je dirais, il faut zoomer pendant un interview sur la personne qui parle, etc. Enfin, cette pratique-là.
Et en fait, depuis que je fais ce travail Back to the Tools, j'ai été invitée aussi au musée de la céramique pour revisiter les sociétés andonaises qui n'existent plus. Et donc, j'avais fait tout un travail aussi en lien avec l'iconographie, en fait, de ces sociétés. Et donc... Le musée de la céramique à Andenne m'a mise en contact avec la fonderie pour faire un travail similaire. Et ça a très vite collé avec Pascal Magéris qui m'a montré les collections. Et de là est née cette collaboration. Et il y a une autre collaboration aussi dans cette pièce, c'est avec Rohan Grafli, qui est un artiste qui est photographe à la base, qui a fait la Cambre comme moi, mais donc lui en photo. Et il se fait que son univers, c'est aussi les outils. Donc on avait exposé ensemble il y a 4 ans au Palais Abbatial à Saint-Hubert. C'était Julie Crène qui nous avait exposé parmi d'autres. On était une bonne dizaine. La thématique, c'était le travail.
Mais c'est vrai que c'était dans l'air du temps. Hein. C'est la télévision naissante, etc. Enfin, les magazines, il y avait quand même aussi des grands magazines américains ou français, Match et autres. Et je pense qu'à l'époque, ils se rendaient compte que c'était vraiment indispensable de savoir manipuler les images, le son. Et voilà, les interviews, etc.
Mais Christine Maouet...
Mon grand-père était déjà décédé, mon père devait reprendre cette usine, je crois que c'était son rêve d'enfant et c'était une certitude, et puis l'usine a fait faillite, et donc voilà, et peut-être que je rattrape aussi tout ça à ma façon.
J'ai donné cours à l'IEX à l'époque à Tournai, parce que j'avais travaillé comme cinéaste sur les films d'André Cavens. André Cavens était un des piliers de cette école dans la section cinéma. Il y a eu alors Alphonse Le Gros Collard qui a été le fondateur de la section photo, enfin du département photo, on va dire, et d'autres. Et Robert Delieu, comédien, qui était, lui, en radio, en son.
Modèle Namur, modèle Liège, enfin, je trouve ça vraiment savoureux.
Et ce sont des houes
oui.
À betterave
oui,
haute.
Voilà, oui, oui.
La moitié polie, douille cylindrique. Lame en acier. Pomme de terre.
Voilà. Ces outils-là, je ne les ai pas réinterprétés en porcelaine. Je me suis concentrée sur les couperets, les plantoirs aussi.
Sarcloir,
oui.
Plantoir.
Oui.
Donc, visiblement, ce sont des outils pour...
Pour le jardinage, en fait.
Pour le jardinage oui, oui. Lié au potager.
Oui, voilà, exactement.
Sécateur, pince coupante, piège anglais. Pince à dénouer les fils, à l'usage des électriciens.
Mais moi, ce qui m'intéressait avec tout ça, c'est le côté onirique, évidemment.
Et le commissaire que vous êtes, en l'occurrence, pour cette exposition qui se tient à la faculté d'architecture Horta, à Bruxelles, le commissaire que vous êtes, comment a-t-il travaillé ?
Heureusement, il y avait l'équipe photo, les profs de photo, qui, eux, ont connu de très près tous ces étudiants, encore jusqu'à ceux qui sont sortis l'année dernière. Et j'ai découvert aussi de nouveaux photographes. J'en ai connu une série, ceux qui m'ont eu en première année et par après, parce que dans le cadre de l'école, il y a aussi, à la fin des études, il y a ce qu'on appelait le mémoire médiatique. Les étudiants faisaient un mémoire théorique et un mémoire médiatique.
Dans le rêve de réinventer quelque chose et de quitter la fonctionnalité première, le sens premier.
Mais je pense à ceci, nous sommes dans les années 70 et apparaît la mécanisation.
Oui, 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 tout à fait.
Les machines à moteur,
oui, oui, oui.
Les motoculteurs.
Oui, oui, voilà.
Et dans ce cas-là, j'ai aussi donc pu découvrir à l'époque des gens qui promettaient et qu'on retrouve ici. Et qui sont internationalement reconnus maintenant aussi, il faut le dire.
C'était important dans votre famille, cette famille.
Ah oui, 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 c'était, pour mon père en tout cas, c'était, oui, très très important, je pense que, oui, il avait grandi avec ça et avec cette certitude de poursuivre l'histoire, donc.
Et vous êtes retournée sur le site de l'usine ?
Ben, j'ai essayé, mais c'était difficile d'accès, donc non.
L'avantage d'un musée comme la Fonderie, c'est que le travail touche à tout et concerne tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi, hein, il y a le travail général. C'est juste pour vous montrer donc, comment est-ce qu'on construit une exposition. Donc ici, on a une exposition qui va se dérouler en octobre autour du boulevard Léopold II. Au boulevard Léopold II, vous avez la communauté française. Ouais, et avant la communauté française, vous aviez un complexe usinier assez incroyable qui était... les usines de Wall. Et les usines de Wall vont être détruites pour faire place à la communauté française. Et donc nous, ce que nous faisons ici, nous partons de photos et nous allons illustrer ce quartier pour montrer l'évolution en deux siècles d'un quartier qui est passé d'un quartier industriel à un quartier de service. Alors quand vous voyez la façon dont on fait une exposition, c'est un peu... D'abord, il faut tout étaler, puisque là, c'est des photos qu'on a reçues. Il faut trier, il faut choisir, et puis il faut interpréter. Et là, on est dans la partie la plus physique, on étale tout et on réfléchit.
Et ce viaduc ?
Et le viaduc, oui, on a quelques photos. Hein, le viaduc est... Voilà, est une... a disparu, je veux dire, heureusement.
58, le viaduc.
Même 57. Donc il a été ouvert en 57 et il
pour
a
58.
Été. Pour 58 et il a été détruit dans les années 90. Hein. Donc on en cherche d'ailleurs. Enfin, on cherche à illustrer ça. On aimerait bien pouvoir montrer autre chose que des photos, un morceau. Je ne sais pas. Donc on imagine, on cherche.
Il y a des films.
Il y a des films, oui. Ouais.
Il y a des films même de la construction, j'en ai vu.
Oui.
Ouais.
Ah oui, ça c'est intéressant.
Ouais. Je crois que la cinémathèque est riche de ça. Ouais. Ouais.
Donc là, on a fait un appel, on parlait de mémoire orale. Donc quand nous avons une exposition, nous le lions toujours à une mémoire orale, à une collecte de mémoire orale. Et donc là, pour préparer cette exposition, on vient de faire appel à des témoins éventuels. Avez-vous des souvenirs de ce quartier, du viaduc ? Avez-vous été là qu'on a construit le métro? Avez-vous habité ce quartier, etc.? Donc les gens vont venir nous trouver, nous apporter des photos, des témoignages, et grâce à ça, on va pouvoir enrichir nos expositions.
Oui, tout ça, ça... Je crois que je n'ai pas encore fini tout à fait avec ce travail, j'ai encore des étapes.
Il n'y a pas que des photojournalistes aussi, hein. Des anciens étudiants qui, dans d'autres sections que Presse Info, comme on dit chez nous, qui ont choisi d'être photographes plasticiens, comme on dit, hein, dans l'art contemporain, la photographie actuelle, qui font du paysage, du portrait, des installations, on va dire, qui ont un travail comme un artiste, au fond.
C'est sans fin, une fois aussi, qu'on commence avec les motifs, et je me rends compte qu'un module en entraîne un autre, un agencement, c'est sans fin.
Oh ben, je pense à des risques même physiques. Quand je vois des images de Depardon au Liban et que je vois les images de Cédric Gerbeuet en Palestine pour son mémoire de fin d'études, je ne vois pas la différence.
À la suite du décès de ma tante, qui était beaucoup plus jeune, ceci dit, que mon grand-père, donc que je n'ai pas connu, et j'étais très proche d'elle, donc elle me parlait quand même pas mal de tout ça, mais par bribes... Ils ont vécu une très belle époque, et puis bon, et voilà, il y a eu le déclin industriel, mais je pense que c'était quand même une belle histoire familiale. Et donc voilà, les réinterpréter en porcelaine, c'est en même temps fragile et en même temps la porcelaine est quand même assez robuste. Et puis là, avec les cuillères bifaces de la fonderie, c'est devenu une sorte de colonne vertébrale. Pour revenir sur cette thématique de vanité.
Ah, il y en a beaucoup qui m'ont impressionné, déjà dès leur sortie des études, je pense, à Roger Job que vous allez interviewer.
Dans ma vie, pendant une vingtaine d'années, j'ai couvert toutes sortes de conflits pour l'agence Gamma à Paris. Je me suis longtemps demandé pourquoi je faisais ça. Et en fait, je l'ai compris un jour, c'est parce que j'avais été fils d'un résistant. Et quand j'étais petit, les histoires que racontaient les vieux qui venaient discuter avec mon père étaient des histoires de guerre et de résistance. Je me suis un jour rendu compte que j'avais envie de démontrer à mon père que j'étais capable d'avoir le même courage que lui. Et dans tous les conflits où je suis allé, ce qui m'intéressait, c'était évidemment ceux qui résistaient et qui ne pliaient pas. Donc j'ai travaillé sur ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore la même chose. Je pense que et les débardeurs ardennais qui résistent à la modernité et les Turkana du Kenya qui résistent face au monde qui change ou les vieux éleveurs de taureaux en Camargue, c'est la même chose. C'est une forme de résistance. Et ces formes de résistance, on les trouve un peu où on veut, mais moi j'ai choisi de les trouver comme ça, de les rencontrer comme ça et de les raconter avec mon appareil photo. Voilà. J'étais souvent du côté de ceux qui avaient lancé des révolutions ou qui subissaient les attaques de groupes plus puissants qu'eux et sur des thématiques qui les débordaient complètement. Mais c'est vrai que même si photographier la guerre, ça a quelque chose de très photogénique et de très rock'n'roll, je me suis toujours concentré sur la souffrance que ça entraînait. La seule fois où je me suis absolument consacré aux soldats, c'était toutes les guerres du Libéria, parce que là, ils envoyaient des gamins de 6, 7, 8, jusqu'à 14, 15 ans au front. Et là, c'était aussi un imbus de force plus puissante qui les faisait combattre en leur nom, quoi. Voilà. Mais la soldatesque ne m'a jamais vraiment intéressé. C'était la description des souffrances et des cohortes de réfugiés que cela entraînait, quand j'avais toujours l'espoir que les photos pouvaient servir à changer le monde.
Cet espoir a été vaincu, a été accompli.
Disons que j'ai perdu une forme de naïveté, mais je pense que ne pas le faire serait criminel. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous êtes trop cynique et que vous pensez que ça ne sert à rien et que ça ne concerne que les autres, il vaut mieux changer de métier. Mais voilà, je suis moins naïf sur les choses, mais je pense encore que la photographie, c'est une forme... C'est avec la main tendue, c'est ce qui peut quand même très très fort rapprocher les hommes. Et c'est une idée que j'ai toujours en tête. Enfin, j'ai deux idées en tête quand je fais des photos, celle-là. Et ensuite aussi, je suis obsédé par la restitution. C'est-à-dire que je n'aime pas le verbe « prendre une photo ». Mais je suis toujours très inquiet et j'essaye toujours, quand je restitue les choses, de savoir si je n'ai pas déplu, si je n'ai pas choqué, si je n'ai pas attristé tous ceux qui m'ont fait confiance. Et pour moi, c'est une... Bon, il y a des reportages où on peut ne pas gagner d'argent, mais ceux qui vous ont fait confiance en vous accordant du temps, en vous ouvrant des portes, eh bien, ceux-là, s'ils sont heureux de votre passage et qu'ils reconnaissent en vous ce qu'ils vous ont donné, alors c'est gagné, quoi.
Cédric Gerbeuet, c'est des gens, quand on voyait même les risques qu'ils prenaient pour un travail de fin d'études en tant qu'étudiant, chapeau, vraiment. Et ces gens le prouvent encore maintenant dans leur profession, ils sont reconnus, ils ont obtenu des prix internationaux.
Moi j'ai fait un voyage avec des Syriens qui sont allés de Damas à Tartous, c'était la première fois aussi depuis la guerre qu'ils recommençaient à voyager dans leur pays. Et je disais, j'ai une photo dans un bus où j'ai des personnes qui dansent et qui chantent, alors qu'en fait, on traverse la province d'Homs, et le paysage dehors, est vraiment, c'est un pays ravagé, c'est hyper détruit, et eux, ils étaient en train de danser, de chanter, et c'est vrai que moi, j'ai eu un moment, j'étais estomaquée, je me dis, mais comment c'est possible ?
Alice Debert.
Et puis après, je me suis interrogée, et je me suis dit, mais forcément, pour eux, c'est un signe de reprise de la vie normale, ils ont envie de la célébrer, alors que moi, je voyais que ce qu'il y avait dehors, et je me disais, c'est pas possible, enfin, c'est presque indécent de chanter et danser... sur ce paysage-là, et puis je me suis un peu remise en question, je me suis dit que moi j'avais pas vécu ce qu'ils avaient vécu, et que c'était normal qu'ils célèbrent ça. Donc ça, c'est une image que j'ai tenue à mettre aussi, parce que voilà, en tant que moi, en tant que journaliste ou apprenti journaliste, elle m'a posé beaucoup de questions, même si esthétiquement c'est pas la plus belle, je trouve qu'elle dit beaucoup de choses de la situation du pays aussi.
Je me souviens qu'il s'était couché sous une voiture pour faire des photos de vitrine, sans qu'on le voie, mais si mon souvenir est bon, je crois que la voiture a démarré alors qu'il était en dessous.
Moi, je dois remercier l'IEX de m'avoir donné des clés pour ouvrir des portes. C'est-à-dire que moi, je suis originaire d'une famille modeste, même on peut dire de plouc. Et ma hantise, c'était de naître, de vivre et de mourir dans ma rue.
La première nuit de l'Aïd, donc de la fin du Ramadan, et c'était la première fois depuis la guerre justement que ça se passait presque normalement à Damas. Donc les rues étaient bondées, et c'est vrai que ça, j'ai deux images de ça que je montre, où voilà, il y a des familles qui fument la chicha dans un parc à Damas, il y a une photo assez symbolique, je trouve, où il y a en fait Bachar al-Assad, une grande affiche de Bachar al-Assad au milieu d'une rue bondée de personnes, et on le voit un peu presque souriant. À mon sens, c'est symbolique, parce que ça veut dire qu'après presque 8 années de guerre, il est toujours là, se tenant au milieu de son peuple, qui commence peu à peu à revivre. Donc cette image-là, elle est quand même assez symbolique. Puis il y a beaucoup d'images, enfin il y a deux images, je pense, qui sont dans des parcs d'attractions, parce qu'il faut savoir qu'en Syrie, les parcs d'attractions sont hyper populaires. Et donc là, pendant les jours du Ramadan, il y avait les parcs d'attractions étaient pris d'assaut, il y avait plein d'enfants qui jouaient. Et ça aussi, c'est des images qu'on voit peu de la Syrie. Et donc je pense que j'ai vraiment capté voilà, le quotidien des Syriens qui ont envie de retrouver une vie normale. Et donc c'est principalement ce que je montre ici.
Deux voyages bruxellois. Les 60 ans de l'IEX, à l'espace d'architecture, la faculté d'architecture, la Cambre-Horta, jusqu'au 22 avril. À la Fonderie, musée bruxellois de l'industrie et du travail, exposition carte blanche Tentation jusqu'au 7 avril. Avec Aliex, Institut des hautes études des communications sociales, André Soupart, Roger Jop.
L'IEX m'a donné goût à la photographie auquel je ne connaissais rien avant. Un professeur qui s'appelait Alphonse Le Gros Collard. Je me suis très vite rendu compte que l'appareil photo était un alibi extraordinaire pour aller dans des tas d'endroits où vous n'iriez pas sans lui. Un peu comme le médecin et sa sacoche de toubib. Il peut aller dans toutes les couches de la société et tout ça. L'appareil photo m'a permis d'aller dans une centaine de pays faire des photos. Plus d'une centaine de pays. Et sans lui, d'abord je serais resté immobile. Ensuite je serais sans doute beaucoup plus con que maintenant. C'est-à-dire qu'on peut regarder tous les reportages qu'on veut à la télévision, ça n'a rien à voir avec partager la vie de ceux dont on nous parle, d'avoir pris le temps de comprendre ce qu'ils veulent, quels sont leurs désirs, leurs espoirs, et d'avoir aussi la capacité et la volonté de restituer ça. Sans l'IEX, je serais un baraquis à casquette, quoi, en gros.
Colin Delfas, Alice De Werth, Christine Mahouet. Et à la Fonderie, musée bruxellois de l'industrie et du travail, carte blanche, Tentation, avec Pascal Magérus, Christine Mahouet et la voix de Guido van der Hulst. Deux voyages bruxellois par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.